I know how it sounds.
La sexe. Exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sexploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la sexploratrice sur Raison de choix 98.1 Radio X en compagnie de Mel Trudel et Mac Lacasse.
Bonsoir Mel.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va. Une belle semaine qui se termine drôlement, mais ça va. J'ai encore appris le décès d'un proche cette semaine. Et on dirait qu'il arrive plein de malheurs à plein de gens autour. Puis, calique, en tout cas, profitons de la vie à 100%. On a l'impression que ça arrive toujours qu'aux autres, les trucs. Et je le répète, on ne sait pas quand est-ce que le sablier s'arrête. Dites aux gens que vous aimez combien vous les aimez. Sérieusement, là. Toi, Max, as-tu passé une belle semaine?
C'est vrai, puis personne n'échappe à la chute des grains de sable. Tu parlais du sablier, là, oui. On passe tout par là éventuellement.
Oui.
C'est la fin de l'histoire pour tout le monde. Ça va tout finir voilà. De la même façon, mais à chaque fois, c'est drôle, hein? La relation qu'on a avec la mort, c'est souvent surprenant, là, tout dépendamment de la façon dont la personne qu'on aime décède ou la personne qu'on connaît décède, mais mm-hmm. On dirait qu'on s'y fait jamais quand même. Hein? C'est toujours un choc, même si on sait qu'on va tous arriver à ce point-là éventuellement, oui. Ça demeure extrêmement triste parce que souvent, lorsqu'on aime quelqu'un, c'est une partie de nous qui s'en va.
Oui, les souvenirs, puis les « Ah, oh, j'aurais donc dû, on avait ça de prévu, ah, oh, j'aurais dû y aller cette fois-ci quand ils m'ont invité, faire ci, faire ça. »
Exact.
C'est beaucoup ça qui revient aussi, tu sais, l'espèce de regret ou de, bref, profiter à 200%. Puis dès la semaine prochaine, Max, on va vraiment débuter la magie hein, avec les auditeurs. Donc, on va
ben
avoir
oui, tu m'as embarqué là-dedans,
la magie
toi.
En main. Oui, je t'embarque là-dedans. C'est un défi de 28 jours. Là, les gens commencent aujourd'hui le défi 28 jours sans alcool. Nous, dès lundi, on commence un défi 28 jours de gratitude. Donc, ceux et celles qui voudraient avoir l'information sur le livre à vous procurer, n'hésitez pas à nous écrire, lassexploratrice à commercialradioxradiox.com
ou
ça,
via
nos différents réseaux sociaux.
Ça en dit long sur à quel point je t'aime, Mel. Hein? Parce que là, toutes mes chums m'accueillent avec ça.
Hein, tu vas faire la magie, Maxime, c'est ça, hein? Tu vas faire la magie?
Oui, mais t'as peu. Ça va être bon, à la fin du 28 jours, je vais être millionnaire. C'est ça
non,
que tu m'as
si
dit. C'est ça que tu m'as dit.
Oui, bien, en
plus
fait, tu vas être en mode gratitude et tu vas voir qu'il y a de belles opportunités qui vont s'ouvrir à toi.
Fait que si je suis pauvre, et... je vais être en mode gratitude d'être pauvre.
Mais je te jure, des gens comme Phil Jones, Maxime Martin, Kat, ma chum Kat, beaucoup de gens autour de moi, des gens qui n'étaient pas nécessairement autrefois très spirituels, ésotériques ou whatever, ça les a emmenés à découvrir ça et... Je te le dis, là, c'est des gens qui, aujourd'hui, ne jurent que par la magie. Là. Une fois de temps en temps, ils refont le processus de 28 jours. Puis des fois, tu peux le faire juste une dizaine de jours. Puis tu peux même skipper des procédés. Là. C'est un tout petit procédé de quelques minutes chaque jour. Là. C'est que tu prends le temps de te ramener en mode gratitude une journée. Une journée, ça peut être en lien avec l'argent. Donc, gratitude pour l'argent, gratitude pour les relations. Une autre journée, ça peut être la gratitude pour la nourriture, gratitude pour plein de choses. Et c'est que... Tu te mets tellement en mode gratitude que chaque jour, c'est comme si tu appréciais tellement toutes les petites choses de la vie que tu deviens comme sur une vibe positive et agréable. Et bref, et comme on sait, la loi d'attraction, bien là, ça fait en sorte que tu deviens plus ouvert et réceptif aux opportunités. Donc,
ouais,
ça marche-tu, ça marche pas? Moi, je m'en fous. Moi, ça me fait du bien. Et que ce soit un effet placebo ou pas, bien, ça m'emmène dans un état d'esprit zen et agréable pour tout le monde autour de moi et pour moi-même. Donc, je le fais.
Puis je vais
te
dire une affaire
quelques fois par année.
Que j'ai pas dit à mes chums. Je vais te le dire à toi ce soir parce qu'on est en famille, mais je suis quand même curieux de l'essayer. La réalité,
oui!
C'est que c'est ça, parce qu'on tombe dans la métaphysique. Puis comme tu le disais, tu as oui. Des amis qui l'ont fait, toi, tu le fais, puis ça t'a apporté oui. Des bienfaits. Alors que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas vraiment ça la réponse que je cherche. C'est qu'est-ce que ça peut m'apporter? Je vois,
voilà.
Parce que dans tout ce qu'on accomplit, fondamentalement, on peut toujours retirer du positif. Que ça marche
oui.
Pas de A à Z, c'est pas grave, mais dans l'expérience globale, il va assurément avoir une ou petite chose qui vont m'apporter du bien.
Exactement.
C'est ce que je me dis.
Donc, on commence ça lundi. C'est le livre « La magie » de Rhonda Byrne, qui est la suite
Rhonda
du livre
Byrne.
« Le secret ». Donc, comment?
Rhonda Byrne.
Oui, j'ai la misère à le dire.
Ben moi aussi, ça se dit mal.
Oui, mon éternel accent anglais. Donc, disponible dans toutes les bonnes librairies en ligne sur Amazon. Et si vous avez la difficulté à le trouver, là, je peux vous envoyer la photo personnellement. Là, vous avez juste à nous écrire et on va vous faire parvenir ça.
Fait que lundi, on va commencer à lire chacune des journées pour pouvoir le faire avec nos auditeurs. C'est un peu ça le principe.
Voilà.
On va le faire
donc,
tout le monde ensemble puis on va mesurer à quel point ça nous aide.
Oui, c'est ça. Puis vous n'êtes pas obligé d'aller chercher le livre. Là. On va vous partager le petit procédé à faire avant de vous coucher. Donc, vous allez avoir tout en main pour pouvoir pratiquer la magie avec nous.
Ah, je suis rempli de gratitude.
Des magiciens. On tente de partir une secte.
Oh, et Alain Choquette sort de son corps.
Voilà. Ah, oh, je l'aime tellement, Alain Choquette.
Ah oui?
Ah, il est-tu bon? Ah oui, je l'ai vu à la salle Albert Rousseau l'an dernier, puis il était excellent. Mon père est magicien, moi.
Quoi?
Oui.
Bon, c'est là que tu me dis ça?
Oui.
Ton père est magicien?
Ben oui. Oui, mon père est magicien.
Mais quel genre de magicien? Un genre de magicien qu'il te vole ton portefeuille?
Non, non, des tours de magie sur scène. C'est l'argent? Ou... Oh, oui, des tours de magie sur scène. Il est même déjà resté pris dans sa boîte en plein show au Grand Théâtre de Québec.
Arrête donc, toi!
Oui, souvenir d'enfance. Oui, en tout cas, bref, je te raconterai ça une autre fois.
Oui,
hors
oui,
d'onde.
Oui, 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 oui.
Je doute que ça intéresse les gens. Donc, ce soir, Max, on a une invitée qui est avec nous mensuellement. Donc, une collaboratrice régulière que les gens adorent et dont plusieurs personnes ont même adhéré à ses services, donc à ses cohortes en ligne qu'elle offre. Et c'est Sonia Miss, Sonia Fit, en fait, qui est avec nous. Bonsoir, Sonia.
Bonsoir. Bonsoir, Maxime. Bonsoir, Mélanie.
Bonsoir.
Hello, hello. Est-ce que tu es adepte de la loi d'attraction, toi, Sonia?
Complètement. Écoute, ça me parle, votre 28 jours de gratitude, j'adore ça. Sincèrement, oui. Je la pratique beaucoup moi-même. D'ailleurs, on me surnomme Miss Gratitude. Donc, j'en fais tous les matins. Et le soir aussi, j'invite les gens à en faire hein, dans ma journée. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Qu'est-ce que j'ai apprécié aujourd'hui? Au moins, de nommer trois choses de beau puis qu'on a apprécié dans notre journée. Et ça change vraiment notre vision, notre perception des choses. Puis comme oui. Le dit Mélanie, oui, ça augmente notre taux vibratoire. Oui, ça augmente. On attire le positif parce qu'on focus sur le beau. Donc, c'est vrai que ça l'a... c'est puissant.
Un effet positif. Oui, c'est oui, ça. Vraiment. Donc, que ça fonctionne ou pas, au bout du compte, c'est, ça nous amène dans un état agréable là, sur le champ. Donc, hein, pourquoi oui. Pas le faire, dans le fond?
On va vous convertir. Et... On va vous convertir.
On va tous vous convertir.
Mais d'être capable de voir le beau, c'est bien aussi dans les choses. Là. C'est le
oui,
fun,
tant que ça ne devient pas toxique et que ce n'est pas de la positivité toxique, tout demeure sain. Puis, on va parler aujourd'hui, Sonia, de bigorexie.
Exactement.
Qu'est-ce
et là,
que la
c'est
bigorexie?
Un peu moins sain, hein, ça?
Oui,
tout à fait.
Oui, c'est exact. Ça, exactement. Donc, comment on le diagnostique, les symptômes, tout ça. Mais qu'est-ce que la bigorexie, Sonia? C'est un drôle de mot, ça.
Exactement.
Ça sonne un peu comme une maladie vénérienne. Là,
oui,
mais c'est une maladie. Hein? C'est quand le sport, ça devient une addiction. Donc, ça a été reconnu comme une maladie en 2011 par l'OMS, dans le fond, qui est l'Organisation mondiale de la santé. Donc, la bigorexie, ça toucherait quand même 15 % des personnes qui pratiquent du sport au quotidien. Donc, c'est quand même, c'est plus fréquent chez les sportifs de haut niveau, surtout ceux au niveau de compétition. Mais ça touche aussi, cette addiction au sport-là, les sportifs d'activité moyenne. Donc, ça nous est tous déjà arrivé quand on fait de l'activité physique, là, de se sentir coupable parce qu'on rate un entraînement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On se sent, oui. Faute de temps ou de motivation, des fois, on est comme « Oh non, j'ai manqué mon training aujourd'hui. » En tout cas, dans mon cas, moi, comme ancienne athlète de fitness, puis je m'entraîne de façon régulière, quand je skip un entraînement, ça peut m'arriver de ressentir un sentiment de culpabilité.
Bien, je sais qu'il y a des gens qui courent beaucoup. S'ils arrêtent une journée ou deux, je pense même qu'il y a un débalancement chimique dans le cerveau hein, qui peut se créer puis amener à un état de mal-être, hein? Ça se peut-tu? J'ai déjà lu ça.
Oui, effectivement, ça fait partie des causes. Mais juste avant, j'aimerais mentionner que cette addiction-là au sport fait partie des addictions qui sont comportementales, comme on parle les addictions aux jeux vidéo ou les workaholics là, qui ont des addictions au travail. Donc, les bigorexiques, les personnes qui sont atteintes de bigorexie, ils organisent toute leur vie autour du sport, là, jusqu'à se couper de la société. Donc, dans les cas les plus graves, là, cette addiction-là, bien, elle peut mener à une dépression, voire même au suicide. Donc, c'est une recherche de sensations constantes de plaisir à travers les pratiques sportives, qui est tout le temps en augmentation. On veut toujours sentir ce sentiment de bien-être-là. Et quand on arrête, en cas souvent d'arrêt forcé, comme des blessures ou des manques de temps. Et là, il y a une manifestation des signes de sevrage, le physique, psychologique, le plus ou moins intense, tout dépendamment. Donc, vraiment, c'est vraiment considéré comme une maladie.
J'ai-tu raison de penser que c'est probablement une des addictions les plus pernicieuses parce que c'est une addiction qui te fait sentir bien. C'est une addiction qui te fait sentir mieux dans ton corps. Donc, les gens qui en sont victimes, est-ce que ça se pourrait qu'ils le remarquent un peu moins?
Oui, c'est vraiment avec les symptômes, on va en parler un petit peu plus loin aussi, mais oui, parce que c'est à la base, prendre soin de soi, aller faire du sport, sécréter des endorphines, c'est positif.
C'est bien vu par la société, tout ça.
Exact. Donc. Puis ça fait du bien au corps, là, où ce que ça devient malsain, c'est quand vraiment, là, on pousse dans l'intensité, que là, tout notre univers tourne autour de cette pratique sportive-là, et que là, ça devient plus problématique. Et là, on va aller pousser un petit peu plus loin en essayant d'aller voir c'est quoi les causes. Hein? Parce que justement, s'entraîner, c'est bon. Mais là, il y a plusieurs hypothèses qui ont été faites pour l'expliquer. Notamment, les hormones. Okay? Les hormones qui sont produites pendant une activité sportive, ça pourrait jouer vraiment un rôle majeur dans cette addiction-là. Et surtout au niveau des endorphines. Hein? C'est des hormones qui sont libérées pendant qu'on fait une activité physique quand même intense. Et c'est ça, ça stimule ton neurotransmetteur de dopamine. On sait la dopamine étant l'hormone du plaisir. Et ça, ça l'expliquerait, ce sentiment de plaisir-là puis de bien-être que les personnes qui pratiquent du sport.
Ton sport devient une drogue.
Oui, exactement, Mélanie. Donc, la dopamine, hein, on peut devenir accro à ça, là, cette dopamine-là.
On devient dopé.
Eh oui, on devient dépendant à cette sensation-là aussi. Puis on dit aussi qu'il y a certaines personnes qui seraient plus prédisposées que d'autres à l'addiction au sport parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus sensibles aux effets des endorphines. Donc, voilà. Ça serait une des premières causes au niveau hormonal. Une deuxième cause de l'addiction au sport, ça pourrait être d'ordre plus psychologique. Et là, j'explique. Quand on devient bien accro au sport, là, des fois, ça peut tout soulager notre stress, notre anxiété, des douleurs psychologiques aussi. Hein? Des fois, ça peut être lié à des douleurs là, liées à un événement présent, un événement passé, des blessures psychologiques, un mal profond, un mal-être. Bien, ça peut, à travers le sport, être une façon d'aller extérioriser ça, d'aller soulager cette détresse-là. Donc, deuxième raison qui pourrait être à la source. Troisième point, on appelle ça le complexe de l'Adonis. Est-ce que vous savez c'est quoi?
Le fait de toujours vouloir être plus gros?
Mm-hmm. Eh oui, exactement. Donc, c'est un moyen d'atteindre un corps parfait. Hein? On veut augmenter notre estime de nous. On veut toujours à tout prix développer une plus grosse masse musculaire. On est
et
à la recherche.
Dans les troubles dysmorphiques.
Oui, et voilà. Donc, tu sais, on est à la recherche du physique idéal. On dit que ça toucherait principalement les hommes, mais c'est sûr qu'il y a certains sports, comme celui du fitness, hein, comme ancien athlète de bikini fitness, je peux vous en parler. C'est sûr qu'on devient un peu dans la fixation du corps parfait, vouloir développer, hein, c'est un entraînement structurel. Donc, c'est sûr qu'il y a certains sports, comme celui du fitness, qui peut être des sports plus sujets.
C'est vraiment une obsession d'avoir des plus gros muscles ou d'être découpé davantage. Oui. Et aux yeux de monsieur, madame, tout le monde, ça peut paraître exagéré et même difforme, alors qu'aux yeux de la personne, ce ne sera jamais assez parfait.
Exactement.
Ça, c'est fou.
Et là, on va dans le body dysmorphia, où la façon que ces sportifs-là ou se perçoivent, sont jamais assez gros, sont jamais assez beaux. Donc, ils se voient pas réellement de la même façon que les autres autour d'eux les perçoivent.
Encore une histoire de perception.
J'imagine que tu dois déjà l'avoir vu, toi, dans ton parcours de fitness, Sonia. Des gens qui étaient énormes ou surentraînés, qui voulaient continuer à prendre du gain, c'est-tu fréquent?
Ben oui, il y en a quand même beaucoup, je vous dirais. Puis ça, il faut être sensibilisé. Je voudrais qu'il y ait même des personnes dans le bodybuilding qui le savent, qui sont atteints de ça, qui sont conscients de cette problématique-là. Et dès qu'ils arrêtent, non, je suis pas assez gros, je suis pas assez grand, tu sais, je suis pas assez musclé, complexé d'enlever leur chandail à la plage, dans différentes
sorties. C'est incroyable, ça.
Parce que c'est pas assez. C'est ça. Et à un moment donné, ça devient obsessif.
Oui, puis un des dangers que je vois aussi relié à ça, c'est que plus tu t'entraînes, oui, tu veux toujours être plus gros, le complexe d'Adonis, mais vient un moment où ton corps plafonne et tu as besoin de d'autres substances pour t'aider à accroître ton potentiel physique, si on peut appeler ça comme ça, entre gros guillemets.
Oui, alors là,
tu tombes dans d'autres dépendances. Là.
Oui, et je vous dirais que souvent, les personnes dopées comme ça, ne peuvent plus s'en passer parce que dès qu'ils tombent naturel après, qu'ils arrêtent ça, ils se voient dégonflés, ils se voient moins gros, ils se voient moins beaux. Donc, malheureusement, surtout au niveau de la compétition, le dopage est souvent perçu comme même valorisé on va se le dire. Mm. On peut atteindre un certain niveau avec notre corps qu'on ne peut pas atteindre naturellement. Donc, oui, surtout quand on tombe au niveau de la compétition, ce qu'on veut vraiment aller travailler certaines zones spécifiques, oui, ça peut devenir vraiment avec le complexe de l'Adonis très fort.
Donc, ça prend un suivi, j'imagine, psychologique, là, si quelqu'un veut se sortir de ça. Comment est-ce qu'on fait pour... En fait, je sais qu'il existe des tests pour savoir si on est bigorexique.
Oui. Mais... Bien, le diagnostic va être fait d'abord et avant tout par un médecin. Oui, mm-hmm. C'est vraiment un cas de diagnostic médical. Mais tu sais, les symptômes, d'abord et avant tout, je pense que toutes les personnes qui pratiquent du sport de façon intensive développent pas tous une addiction non plus. De vouloir pousser, de vouloir aller un petit peu plus loin, de vouloir un petit peu plus, c'est pas malsain. Mais c'est quoi les symptômes, je vous dirais, principaux qui vont dire, OK, mais qu'est-ce qui va démarquer, qui va dire, d'abord, j'en souffre peut-être de cette bigorexie-là. Je vais vous énumérer les symptômes. En premier lieu, je vous dirais, quand cette personne-là consacre de plus en plus de temps à l'activité physique puis qu'elle délaisse sa vie personnelle et professionnelle, tu sais, quand ça devient que le sport devient sa priorité, tu sais, je dis souvent à ma clientèle, mettez-le à votre agenda, faites de vous votre priorité. Oui, mais pas au détriment de délaisser ta vie personnelle ou professionnelle non plus. Fait que, oui, c'est important quand même de se mettre à l'agenda puis de nos entraînements, mais il ne faut pas que ça devienne non plus que ça le centre de notre...
univers.
Exactement. Mm-hmm. En deuxième point, je vous dirais que les personnes qui en souffrent aussi, ils développent souvent une obsession pour leur physique, une obsession pour leur poids, une obsession pour leur performance sportive s'ils sont plus dans des sports de performance. Donc, on conditionne son quotidien autour de sa routine sportive de façon à aller chercher cette obsession-là. Également, ils développent, ceux qui développent des addictions au sport, ils présentent des symptômes de sevrage quand ils sont privés. Donc, tu sais, on ne peut pas y aller, peu importe, là, dès qu'on leur prive de leur activité physique, là, il y a des symptômes de tristesse, d'irritabilité et de grande culpabilité aussi qui embarquent.
Ouais, c'est ça que j'ai lu, en fait. C'est là qu'il y a un débalancement chimique qui se fait là, dans exactement. Le cerveau. Ça peut même mener à la dépression. C'est fou.
C'est fou, là, quand même. Hein? Et je vous dirais que l'addiction au sport aussi, ça peut conduire les sportifs à repousser toujours de plus en plus leurs limites. Ça, c'est... Oui, ça peut être obsessif, mais là, à un moment donné, ça peut être à l'origine de certaines blessures, parfois graves, hein? Des fractures de fatigue, des lésions musculaires. Et ils continuent malgré... les blessures graves, leur pratique sportive, ce qui cause des risques supplémentaires. Et là, l'apparition de séquelles là, sur de long terme. Donc, voilà.
Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, toi, personnellement, de vivre un épisode de bigorexie ou t'as jamais été vraiment touchée par ça? Ben, t'as été capable de modérer?
Je vous dirais que oui, parce que ça m'est déjà arrivé en pleine préparation de compétition où ce que j'ai ressenti des blessures aux genoux. Et suite à un traitement là, en physiothérapie, on m'avait conseillé d'être une semaine sans sport. Et j'étais complètement dans une détresse. Je pleurais. Je pleurais, oui, parce que j'avais mal aux genoux, mais je pleurais surtout parce que je ne pouvais plus m'entraîner. Donc, ça, j'avais trouvé ça vraiment difficile. Et je me disais, bon, ben là, OK, je vais perdre en force, je vais perdre dans mes charges que je vais lever. Tu sais, ça devient comme un petit peu obsessif.
Ouais, mm-hmm. C'est difficile aussi parce que ça fait partie intégrante de ton quotidien, alors de t'en séparer comme ça abruptement, voilà. C'est clair qu'il y a un enjeu là. Et si on se transporte à aujourd'hui, Sonia, est-ce que tu penses que tu es aux prises avec le même enjeu encore? C'est-à-dire, si on t'enlève l'entraînement de ta vie aujourd'hui, je comprends que ça fait partie de ton métier, là, mais si on te dit que tu n'as plus le droit de t'entraîner du tout, comment tu vis avec ça?
Je le vis vraiment mieux, là. Je suis ailleurs complètement parce que j'ai fait tout un cheminement à partir de mon parcours, je voudrais, d'athlète, ce qui m'a fait prendre plein de prises de conscience. C'est jusqu'où on va dans l'extrême, jusqu'où on va dans l'obsession de la beauté, jusqu'où on va dans l'intensité de nos entraînements, nos volumes d'entraînement, dans nos carences, je vous dirais, alimentaires. On va en déficit calorique intense pour aller en sèche.
Je me rappelle
vraiment.
Même d'une Sonia qui apportait son plat dans les restos, là.
Ouais,
t'apportais ta propre nourriture au restaurant.
En compétition, là, j'étais inébranlable. Là. J'étais sur un focus incroyable. Mais avec le recul, compétition après compétition après compétition, ça joue. dans le psychologique, ça, on va se le dire. Donc, je vous dirais que maintenant que je suis complètement sortie de ce milieu de compétition-là, ça m'a permis d'aller faire des belles prises de conscience qui m'ont ramenée dans l'équilibre. Et c'est pour ça, notamment, que je ne veux pas coacher du monde en compétition, parce que c'est une intensité quand même, on va se le dire. Là. Oui, c'est un autre monde. Et je pense que plus on vieillit, là, plus on veut rester. On veut être bien dans un corps qu'on aime, évidemment, mais l'obsession de la beauté, ça s'arrête aussi. Il faut être capable, à un moment donné, de se trouver beau, de se trouver belle dans le corps qu'on a. On en prend soin, on donne l'amour en donnant de la bonne nourriture, en l'entraînant, évidemment, mais sans avoir cette obsession-là, que si je mange un dessert, j'ai pas besoin d'aller courir 5 km, que c'est pas parce que j'ai mal aux genoux puis que je m'entraîne pas pendant une semaine que ça va affecter mes gains puis que ça va scraper ma préparation à ma compétition. Mais je comprends que l'athlète reste focus, tu sais, c'est ça.
C'est tout à fait légitime d'être justement focus, de vraiment d'être centré sur son objectif, disons avant un marathon, de vraiment se donner à fond et tout. Mais la récupération après est aussi très importante. Bon, c'est important aussi de lâcher prise puis de faire « OK, je vais reprendre le dessus tranquillement, retomber dans l'équilibre. » Donc, il y a peut-être une période pré-compétition, pré-marathon, pré-entraînement qui est intense, mais après ça, c'est important de retrouver...
après la compétition, après aussi de se ramener, de dire « c'est normal », moi, je vais parler de mon parcours là, en fitness, mais après, c'est normal, on recommence à boire de l'eau, on recommence à manger de façon un petit peu plus « normale », je dirais, en guillemets. Donc, c'est sûr que là, notre poids augmente. Puis je vous dirais psychologiquement de passer de sec là, à... prendre 10 livres en une semaine, là, il y a des athlètes qui font des rebounds, là, qu'on appelle, que là, à force de savoir priver, tombent dans l'excès de nourriture. Psychologiquement, c'est difficile. Donc, vraiment, quand tu es athlète de haut niveau, je vous dirais que l'après-entraînement est tout important. Il y a des athlètes qui font des dépressions aussi, parfois, là, pour plusieurs raisons, mais notamment l'acceptation du nouveau physique là, après compétition.
Je te présente un cas de figure, OK? Je m'appelle Maxime, un gars qui aime ça aller au gym. Okay? Je vais au gym à tous les jours de la semaine et je t'écoute ce soir puis je me dis, ouais, peut-être que je serai atteint de bigorexie. Les étapes auxquelles je devrais m'attendre pour anticiper une potentielle guérison, ce serait quoi? Du jour où je comprends que je suis peut-être atteint de la bigorexie jusqu'au jour où je me guéris de ça, où je m'affranchis de cette maladie-là.
S'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ces symptômes-là, c'est sûr qu'il peut y avoir différentes intensités. Oui, on parle que le diagnostic peut être fait par le médecin, mais ça soigne ça comme une addiction comportementale avec une thérapie. Hein? Soit avec un psychiatre addictologue, il y a des personnes qui sont attitrées à ça, des psychologues sportifs qui peuvent aider les sportifs qui souffrent de bigorexie. Sinon, il peut y avoir des thérapeutes spécialisés là, en thérapie, les fameuses... thérapie cognitive comportementale, parce que comme je vous disais tantôt, ça reste une addiction de type comportemental. Donc oui, ça peut fortement aider. Sinon, bien, je vous dirais, tu sais, sans nécessairement les consulter, à la base, j'oserais faire des séances de relaxation aussi qui peuvent être utiles pour vaincre votre stress, votre anxiété, qui peut être liée à l'addiction. Hein. Moi, j'ai eu une amie déjà là, qui arrivait devant le gym dans sa voiture puis qui commençait déjà à pleurer là, parce que la pression qu'elle se mettait...
Mais voyons donc!
Oui, bien, il y a des personnes qui sont vraiment atteintes de ce stress-là, de cette pression-là, de cette anxiété de performance-là. Donc, il faut que ça reste sain. Rappelez-vous tout le temps, tu sais, de pourquoi vous le faites. L'important, c'est d'être bien dans sa peau, dans sa tête également. Puis séances de relaxation-là peuvent vraiment être utiles là, pour vaincre d'abord et avant tout l'anxiété.
Il y a beaucoup de gens qui sont atteints de bigorexie qui vont aussi avoir un autre problème qui s'additionne, c'est l'orthorexie, donc l'obsession de manger sainement ou l'angoisse. Ils angoissent à l'idée de ne pas bien manger ou de manger de la nourriture qu'ils jugent malsaine. Fait que là, tu te retrouves, t'es bigorexique, puis là, en plus, t'as une obsession pour la nourriture, de manger sainement et tout ça. Hey, écoute, t'es pas sorti du bois, là.
Oui, c'est ça. Mais c'est toujours de garder l'équilibre. Tu sais, j'ai passé de la maman, moi, pas bien dans sa peau, à l'athlète dans l'excès. Je vous dirais, c'est d'aller trouver l'équilibre. Hein.
Là, t'as trouvé ton équilibre, hein, présentement?
Oui, exactement. Donc, pour avoir été la maman qui n'était pas bien dans son corps à l'athlète de fitness qui a été dans l'excès, je vous dirais que c'est d'aller trouver l'équilibre, vraiment. De faire des prises de conscience, toujours vous ramener à pourquoi vous le faites. tu sais, d'abord et avant tout, on le fait parce qu'on veut être bien dans notre corps, on veut être bien dans notre tête. Et ramenez-vous toujours à votre « why », tu sais, le fameux « pourquoi ». Je le fais parce que j'ai envie d'avoir de l'énergie, j'ai envie d'avoir un beau corps, d'accord, mais on a des petites cloches internes là, qui s'allument aussi des fois. De dire, c'est-tu normal là, que je me sente coupable de monter sur la balance? Est-ce que c'est normal que je me sente complexée d'enlever mon chandail si je vais à la plage? C'est tous des signes qui nous parlent. Donc, je vous dirais, ramenez-vous tout le temps là, dans l'équilibre en vous disant pourquoi que vous le faites d'abord et avant tout, puis d'apprendre dans l'acceptation de soi. Vous donner de l'amour, c'est vous entraîner, bien manger, mais c'est aussi prendre soin de son mental.
Voilà. Se rappeler pourquoi on le fait initialement, pourquoi on a embarqué là-dedans initialement, peut-être que ça peut nous ramener à l'idée de base qui était peut-être juste d'être en santé, mais là, c'est devenu une obsession. Donc, de se rappeler ça, peut-être que ça peut vous aider là, à prendre du recul.
Parfois, dans notre entourage, on peut penser à une personne qui on pourrait avoir des soupçons, qui en souffre également. D'en discuter, d'allumer des donner des conseils aussi. Parfois, ça peut peut-être aider grandement une personne qui n'en a peut-être pas conscience, qui est dans sa bulle. Là,
oui.
Et moi, j'ai vu des personnes au gym déjà dire « intense, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Ben, tu sais, on peut avoir une conversation franche et dans toute la bienveillance, là, sans jugement, puis faire prendre des prises de conscience parfois parce que, oui, ça peut tomber dans l'intensité qui peut être malsaine.
Exactement. Miss Sonia Fit, merci beaucoup. On peut te retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux. Sonia Quintin et Miss Sonia Fit sur Instagram, sur Facebook. Merci. Merci beaucoup pour cette belle chronique encore ce soir. Et on se retrouve dans quelques semaines avec un autre beau sujet en ta compagnie.
Merci, Sonia.
Merci à vous.
Merci. Bonne fin de soirée. C'était Sonia Miss Fit, entraîneur et naturopathe. Et vous êtes à l'écoute de Les Exploratrices sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
Les Exploratrices.
Avec Mel Trudel. Radio X.